Nous allons rester avec l'OMS et même dans les coulisses de la conférence mondiale de la santé qui s'est déroulée il y a 15 jours, grâce à Garance UFAM. Garance a beaucoup travaillé sur le contrôle infectieux en Afrique. Elle participe à Pulse Health Movement et est aussi à l'UFAL. Celle qui nous a amenés sur les chemins de la réflexion à l'international, car nous avions jusqu'à présent surtout travaillé les problèmes de santé dans le cadre national.
En attendant qu'on branche mes diapositives, pour enchaîner sur ce que Germain a dit, qui était très très fort à mon avis, je voudrais informer les gens intéressés que le gouvernement du Brésil organise une conférence mondiale. Ah, plus près du micro, d'accord. Le Brésil organise une conférence mondiale sur les systèmes de santé universels les 1er, 2, 3 décembre à Brasilia. J'ai des brochures, c'est intéressé. Et l'intérêt de cette conférence, c'est de remettre à l'ordre du jour l'idée qu'il nous faut des systèmes de santé qui couvrent toute la population et qui garantissent le droit à la santé pour tous. C'est bon. Voilà. Donc j'ai eu le plaisir de participer à la dernière Assemblée mondiale de la santé, comme depuis une vingtaine d'années j'y participe, ou presque. Et c'est vrai que la plupart du temps on sort de là assez triste, mais en même temps je crois que c'est une expérience qui est très importante, parce que c'est pas seulement, on a dit un peu tout à l'heure que c'était les ONG. Je crois qu'il faut sortir de cette idée-là. Ce n'est pas que les ONG. D'ailleurs, Germain, maintenant, représente SARS Center. SARS Center, c'est une organisation intergouvernementale des pays du Sud. Et je crois que la chose essentielle que nous devons comprendre, c'est que la lutte des pays du Sud pour l'accès aux médicaments aujourd'hui, la lutte des pays du Sud pour une santé universelle, c'est la nôtre. Parce que si les pays du Sud gagnent, c'est nous, les patients, les gens des pays du Nord, qui allons gagner, qui allons avoir des médicaments abordables et des systèmes de santé qui fonctionnent. Donc, on ne peut pas dire que ce n'est pas une lutte des pays du Sud contre le Nord. C'est pas les riches, les pauvres, non. C'est vraiment une lutte où, pour la démocratie et pour le droit de tous à l'accès à la santé. Alors, très brièvement, il y a eu un certain nombre de victoires, je crois, à l'Assemblée mondiale de la santé. Tu me diras si tu es d'accord sur tout ce que je dis. Je crois qu'une des victoires, et tout le monde a applaudi, c'est la façon dont, justement, l'Assemblée mondiale de la santé a rejeté le groupe Impact. Maintenant, le groupe Impact, c'est un groupe qui identifie en miniature, en quelque sorte, ces PPP, ces partenariats public-privé qui fleurissent depuis une vingtaine d'années et qui sont une abomination, parce que ça veut dire que le privé, avec un nombre d'États corrompus, achetés par le secteur privé, vont déterminer la politique dans un secteur ou un autre. Donc le fait d'avoir rejeté le rapport Impact, avait écrit un rapport sur la contrefaçon qui a été présenté à l'occasion du bureau exécutif au mois de janvier. Les pays ont crié, mais des pays, l'Inde, le Sri Lanka, des pays d'Amérique latine, beaucoup de pays, la majorité des pays qui se sont exprimés sur ce sujet ont dit que ce rapport était inacceptable. Pourquoi ? Parce qu'il définissait la contrefaçon comme la falsification, comme un médicament qui n'aurait ni la qualité, ni la sécurité, ni l'efficacité. Or, d'un point de vue légal, et je reviens sur ce qui a été dit ce matin, ce qu'il faut comprendre, c'est que le terme contrefaçon, en fait, signifie copie de la marque. Donc, on a aujourd'hui au niveau mondial une campagne qui dit aux patients, aux gens d'Afrique, attention, on a cette horreur, ce problème des médicaments, des faux médicaments, c'est-à-dire vous pensez prendre un médicament contre le talus, il y a du poison dedans ou de la poudre de perlimpinpin, mais on dit c'est la contrefaçon. Non, légalement, le terme contrefaçon, c'est défini dans les articles, ça veut dire imiter la marque, ça ne veut pas dire la qualité, l'efficacité, la sécurité du médicament. Donc ce qui s'est passé à l'Assemblée mondiale de la santé, c'est qu'il y a eu ce rejet, et notamment une intervention très forte du Brésil, qui a dit que l'OMS n'a pas vocation à être une agence sécuritaire. La question de contrefaçon, c'est une question qui dépend de l'OMC, de l'OMPI, ce n'est pas une question qui doit être débattue à l'OMS en tant que telle. Et pourquoi une organisation de police ? Parce que, et je crois que ça aurait pu être souligné un peu plus ce matin, parce qu'en fait, une des principales agences dans la mise en place de ACTA aujourd'hui, dont vous en avez parlé tout à l'heure, c'est Interpol. C'est-à-dire, c'est les systèmes des douanes. C'est-à-dire que demain, ce qui s'est passé avec la saisie de médicaments génériques que le Brésil avait acheté à l'Inde et qui a été saisie dans le port d'Amsterdam, ça deviendra quelque chose qu'on va faire tous les jours. Ça veut dire que demain, votre ordinateur, il pourra être saisi à la frontière sous prétexte que vous avez pu avoir un logiciel qui vous permettrait, le cas échéant, d'avoir copié un fichier, et sans que qui que ce soit ait porté plainte contre vous, on pourra saisir votre matériel simplement parce que vous êtes un criminel en puissance et vous avez violé la loi internationale sur la contrefaçon. Bon, brièvement, alors donc, l'Assemblée mondiale de la santé a fait quelque chose d'un peu historique, c'est-à-dire qu'ils ont envoyé paître un pacte et ils ont proposé de faire un groupe intergouvernemental pour établir les questions qui sont vraiment dépendantes de l'OMS, la qualité, l'efficacité et la sécurité du médicament. Alors, je vais essayer de faire bref pour question de temps. Davos contre les Nations Unies. Alors, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'en fait, comme il y a quand même cette résistance à l'OMS, à l'OMC, à l'OMPI, parce que les gouvernements des pays du Sud, s'alliant avec la société civile, résistent, bon, parce qu'il y a ça, il y a cette tentative aujourd'hui qui est intrinsèque à l'initiative de ACTA, mais qui est aussi repris à Davos, et ça a été lancé le 30 mai, donc une semaine après l'Assemblée mondiale de la santé, c'est le programme de Global Redesign, c'est-à-dire de refonte complète de la gouvernance. Alors ça concerne le climat, l'environnement, l'économie, la finance, etc. Et ça concerne aussi la santé. Et dans le programme, moi ce qui m'a frappé dans ce qui est proposé par le Forum économique mondial, c'est-à-dire l'alliance de toutes les grosses multinationales, c'est ce qu'ils proposent, c'est un pacte, mais au niveau mondial. C'est-à-dire une superstructure en disant on ne peut plus en fait. Ce qu'ils proposent de facto, c'est que l'OMS joue un rôle de fournisseur de guidelines. Quoi. L'OMS sera comme ça, avec Bill Gates, avec les industries du privé, avec le gouvernement américain ou d'autres gouvernements amis. L'OMS n'aura plus un rôle spécial, mais un rôle de strapontin en quelque sorte. Ce serait en fait, après toutes les horreurs qui ont, Germain l'a bien montré, qui ont marqué le problème à l'OMS, on va dire, ah ben comme ça a été horrible, du coup on va s'en passer. Et ce que Davos donc propose, c'est véritablement une PPP à tous les niveaux, et de prendre en compte la santé de leur point de vue. Alors ce que j'ai trouvé quand même très très drôle, c'est Olivier Reynaud, qui est responsable santé pour Davos, qui nous a dit cela, il nous a fait un briefing le 10 et le 11 mai à Genève, au Geneva Health Forum, et il a dit la politique de santé, vous savez, il y a eu la commission sur les déterminants sociaux de la santé qui avait dit que pour la santé des peuples, c'était important d'avoir l'accès à l'alimentation, à l'eau potable. Il a dit, nous, Forum économique mondial, on est d'accord pour la santé, pour gérer la santé au niveau mondial, qu'est-ce qu'il faut? Il faut l'industrie de la boisson et de l'agroalimentaire. Je trouve ça fantastique. Vous voyez, c'est la PPP qui arrive en plein. Donc, ce qu'il propose à Davos, c'est qu'en fait, Nestlé, l'agro-industrie, et pas seulement l'industrie pharmaceutique, attention, vous avez vraiment une alliance entre l'agroalimentaire et l'industrie pharmaceutique. D'ailleurs, pour dire en passant, ce que disait Germain tout à l'heure sur la gestion de la grippe H1N1, personnellement, j'ai eu un peu peur de publier quoi que ce soit sur la grippe aviaire, la grippe avant, parce qu'à mon avis, quand on regarde tous les éléments, on voyait très bien à l'époque que la grippe aviaire a été gérée pour l'industrie du poulet. Il y avait une compétition entre l'industrie du poulet chinoise et américaine. Et ce qu'on voulait faire en effrayant les gens, il faut se rappeler qu'aux Nations Unies, la Barreau a prédit 5 millions de morts de la grippe aviaire. Une année où je crois qu'on en a eu 3 ou 4 personnes, hein, 3 ou 4 individus, pas 5 millions. Eh bien, on a fait peur. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en faillite l'industrie domestique du poulet. Mais un peu partout. Moi, j'ai des rapports du Kenya, du Bangladesh, partout, des producteurs qui disent, mais l'industrie domestique du poulet a fait faillite. Donc là, on voyait déjà le début de ce que signifie la connivence et la mainmise de l'agroalimentaire sur les domaines de la santé. Suivant. Bon, alors donc vous avez une approche, là, votre approche marketing, donc comportement, produit, et gestion des systèmes de santé sur la base de réduire les coûts, de réduire notamment les salaires, parce qu'on ne parle pas de réduire la facture du médicament, mais on parle de réduire la facture au niveau du personnel de santé. Et d'établir des mécanismes de gestion qui rendent donc les systèmes de santé profitables et donc privatisés profitables. Alors, une des résolutions, j'essaie d'aller très vite, mais un peu trop vite probablement, une des résolutions qui a été passée à l'Assemblée mondiale de la santé, c'est la décision de créer ce groupe de travail sur la recherche et développement, financement et coopération. Alors, l'Assemblée a donc rejeté complètement le rapport du groupe de travail d'experts qui avait été présenté en janvier, comme étant pro-industrie et incompétent. Quand je dis pro-industrie et incompétent, vous ne le trouverez pas par écrit. Mais c'est dans les dans une dizaine de, d'interventions de délégués gouvernementaux. Donc, on a demandé un examen approfondi, ça c'est dans la résolution. Alors là, là aussi, j'ai un moment d'hésitation, je ne sais pas. Moi, j'ai une résolution papier qui a été diffusée aux gens et je l'ai mise là-dedans en français, une traduction rapide. Et je me demande si la déclaration finale va sortir de cette façon-là, parce qu'il y a 10 jours déjà que l'Assemblée mondiale est terminée. Et toutes les résolutions qui sont des véritables victoires des pays en voie de développement ne sont pas sur le site de l'OMS et ne sont pas accessibles nulle part. Alors, les gens qui étaient là, on a les copies papier, mais ce n'est pas publié pour le moment. Alors, voilà, le rapport sur la recherche et développement, c'est très important, parce que le rapport du groupe d'experts disait au départ, ah, on ne peut pas remettre en cause la question des droits de propriété intellectuelle tels qu'ils existent aujourd'hui. Tout ce qu'on va faire, c'est qu'il faut trouver un mécanisme pour trouver de l'argent, peut-être même la taxe Tobin, etc. On va récolter de l'argent pour les plus pauvres des plus pauvres. C'est ce que disait le premier rapport qui a été rejeté au mois de janvier. Maintenant, ce qui est proposé, c'est d'établir un nouveau groupe de travail qui va recommencer à zéro ce groupe. Et ce groupe est mandaté par les pays. Si on a les résolutions qui ont été passées à l'unanimité, et tout le monde a applaudi, ça a été passé et ça dit que les alternatives au système actuel de recherche et développement doivent être envisagées aussi bien que celles qui ont été prises en main. C'est-à-dire que non seulement... comme le groupe de travail avait dit, le système de propriété intellectuelle actuel est bien, d'accord, mais on va aussi regarder tous les systèmes alternatifs de propriété intellectuelle. Par exemple, le système de prix qui est proposé par Jeremy Love, encore une fois, vous avez une description là-dedans, des systèmes qui permettraient de nous libérer, en quelque sorte, de l'emprise des brevets. Alors, donc, un nouveau groupe de travail qui doit examiner... les systèmes alternatifs de droits de propriété intellectuelle. Et c'était intéressant parce que c'est, la Suisse a joué un rôle de médiateur, donc un rôle positif dans le groupe de travail qui a élaboré cette résolution. Et pour la première fois, je crois, depuis je ne sais combien de nombre d'années, les États-Unis ne se sont pas opposés. Alors, on se pose des questions. On peut dire peut-être que Obama, en sous-main, enfin les gens de la santé autour d'Obama, ont décidé d'infléchir un peu la politique qui est traditionnellement vraiment... terriblement, vraiment d'extrême droite, vraiment la politique de l'industrie dans l'Assemblée, ou alors on cède au niveau de la santé, mais on va regagner par derrière à l'automne parce qu'on va voter ACTA. C'est difficile, hein. Je lance des hypothèses, personne ne sait. Alors pourquoi s'intéresser à l'Assemblée? Je pense que parce que ce combat, le combat des pays du pauvre, c'est le nôtre, et parce que en fait, quand vous regardez. Le système de propriété intellectuelle qui régit le médicament aujourd'hui, c'est une facture énorme pour nous. Jimmy Love dit qu'il y a 500 milliards de trop payés par an, c'est-à-dire de trop payés sur les patients du Nord. Et ce système-là met aussi en faillite les sociétés productrices de médicaments des pays du Sud. Alors, j'avais cité en conclusion une discussion que j'avais avec une responsable sur l'Afrique de la SNUSED, la Commission des Nations Unies sur le commerce et le développement, qui vient de l'Inde, et elle me disait si on avait imposé de tels standards, des standards aussi élevés dans la production de médicaments, on n'aurait jamais pu avoir une industrie du générique en Inde. Or, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le Fonds mondial de lutte contre le sida, tuberculose, paludisme, tout le monde le sait, bon, l'école des gens, de l'argent, il y a des appels à l'argent, mais l'argent, il va où? L'argent, il va à des programmes, par exemple, de fourniture de médicaments. Or, le fonds arrive dans le pays, comme n'importe quel donateur, et dit, bon, ben voilà, on vous alloue tant de millions pour l'achat de vos antirétroviraux ou les médicaments contre la tuberculose, mais il faut que le médicament, il atteigne un tel standard. Et ça, comme les firmes qui produisent des médicaments localement ne sont incapables d'arriver à ces standards, ça veut dire que le médicament doit être importé. Donc on interdit au gouvernement, que ce soit le Nigeria, que ce soit le Kenya, etc., on interdit à ces gouvernements de soutenir leur production nationale. C'est un des effets absolument pervers du colonialisme. Je crois qu'il faut que j'arrête. Cette femme de la SNUSED me disait, moi j'ai peur, on parlait au niveau économique, d'un retour on va retourner 200 ans en arrière. C'est-à-dire on est dans un système économique et politique qui veut déindustrialiser et complètement détruire la fabrique des pays en voie de développement. Si on n'arrive pas à réimposer le crédit comme bien commun, l'État essentiellement, et à concentrer l'action de l'aide aux pays sur la production et non pas sur la consommation, c'est bien joli de dire « Ah ben le consommateur, il aura son médicament très peu cher, ben oui, c'est subventionné par le fonds, etc. » Mais ce qu'il faut, si les pays vont sortir de l'extrême pauvreté et éviter la catastrophe totale, c'est qu'ils puissent développer leur propre capacité de production. C'est pas qu'ils reçoivent la charité du Nord pour les plus pauvres, comme on fait dans l'équipe du millénaire. Voilà, je vous remercie.